franceinter.fr.
Et avant, je peux lui poser une question? Je peux vous poser une question, ma chère Isabelle?
Absolument.
Vous faites un sapin de Noël, j'imagine?
Oui.
Vous êtes plutôt Normane ou épicéa?
Alors, plutôt épicéa, moi.
Ah, enfin, il y en a une autre.
Mais
bon, Alain Baraton.
Bonjour Patricia.
À chacun son sapin.
Eh bien, il n'y a pas qu'Isabelle et vous-même. Moi aussi, je préfère l'épicéa, ne serait-ce que pour les odeurs.
Mais c'est ça.
Il y a les petites senteurs de forêt des Vosges que je trouve beaucoup plus agréables.
Mais pourquoi est-ce que c'est le Norman qui est le plus vendu, alors?
Bah, écoutez, déjà, il faut savoir que 72,8% des ventes de sapins Noël, il faut le savoir, eh bien, concernent les bons, le sapin de Norman. Et l'épicéa ne représente plus que 24,3% des ventes. Et oui, il est en chute libre.
Mais on n'en trouve pas. Enfin, moi, j'en ai cherché cette année. Chaque année, j'en cherche.
On en trouve de moins en moins. Alors, juste un petit détail.
En tout cas, à Paris. Hein.
Alors, juste un petit détail, si vous aimez les chiffres. Sachez aussi que cette année, près de 6 500 000 sapins seront encore vendus, comme quoi les fêtes de Noël, d'un point de vue sapin, ont encore de belles années devant elles.
Mais le Norman n'a fait son apparition que très récemment, non?
Et
avant,
oui, mais
c'était plutôt des épicéas.
Oui,
trouvait.
Mais pour une raison très simple. Déjà, il est bon de savoir que le Norman a longtemps été inconnu en France. Peut-être l'occasion de revenir rapidement sur l'histoire du sapin de Noël.
Oui.
Le tout premier sapin est installé à Célestat, en Alsace.
Ah bah encore l'Alsace, décidément.
Oui, en 1521. Aucun texte ne le précise la variété exacte du conifère, mais en ce temps-là, évoquer un sapin signifie parler du conifère qui a pour origine les forêts et les montagnes d'Europe, donc une plante indigène. L'occasion de rappeler qu'à l'origine, cette fête était un peu païenne.
Ah oui.
On avait simplement choisi un conifère parce qu'il reste vert toute l'année, donc il symbolise la vie. Et l'on avait accroché dans ses branches eh bien, des pommes pour rappeler le souvenir, le péché originel. Voilà d'où vient l'idée.
Avant nos boules colorées, ça a été des pommes.
Mais tout à fait.
Et ça va durer comme ça, tout au long du XVIIe?
Alors, au XVIIe siècle, il faut savoir que les premiers sapins de Noël apparaissent véritablement. Et le sapin arrive, je n'en suis pas peu fier, à Versailles.
Ah.
Eh bien oui. En 1738, avec Marie Lesinska, l'épouse de Louis XV, qui en installe dans les salons du château, mais malgré un emplacement proche de Paris, eh bien, là encore, son utilisation reste limitée à la région Alsace.
Je suis sûr que vous ne faites pas de sapin de Noël, ça salit, hein, ça salit les appartements, Pierre Veil.
Mais ne parlez pas de moi, écoutez, allez, Baraton, je ne compte pas, je ne suis rien.
On va y revenir, et sachez enfin, parce que je veux absolument couvrir toutes les régions de France,
oui,
qu'il faut attendre 1837 pour voir un sapin de Noël à Paris, et encore, ce n'est qu'une curiosité, une simple attraction.
Et ce sapin-là, épicéa ou Norman?
Un épicéa, sans aucun doute. Ce n'est qu'en 1848 que le sapin de Norman est cultivé en Europe. 1848. Il a été découvert quelques années plus tôt à 2000 mètres d'altitude sur le mont Hatcha. C'est non loin des sources du fleuve Kure, un fleuve du Caucase.
Il va falloir plusieurs années, des décennies même pour que
décennies s'impose. Ah oui, parce que déjà en 1910, les sapins commencent timidement, mais vraiment timidement, à illuminer quelques campagnes. Puis ils sont plantés, on le sait trop peu d'ailleurs, devant les mairies en 1944 à la Libération, car ces arbres symbolisent la paix et d'ailleurs vont s'échanger entre États. Ce n'est finalement que dans les années 1960 que le sapin de Noël envahit véritablement nos intérieurs. On utilise alors un épicéa, mais on lui reproche, et oui Patricia, vous avez raison, de perdre ses aiguilles trop tôt. Quand la mode est à la moquette,
vous
rappelez de la mode à la moquette, c'était dans les années 70-80, toutes les personnes chic avaient de la moquette chez elles, eh bien le Norman est préféré car il conserve plus longtemps son feuillage. Il est certes un peu plus cher, mais il est aussi plus chic. Dernière information pour tout savoir, ou presque, sur le sapin de Norman. Il est découvert, comme je vous l'ai dit, au 19e siècle par un botaniste finnois, professeur de zoologie. Il s'appelle Alexander von Norman.
Vous avez déjà décoré le vôtre?
Ah, moi c'est fait, oui.
C'est vrai?
Et
je suis sûr qu'il est énorme chez vous. C'est haut de plafond.
Non, il est
énorme.
N'exagérons pas, mais j'aime bien la tradition du sapin Noël. Et 8,50 m sous plafond, c'est pas non plus abusif.
Vous avez dit, Laurent Delmas?
Mais il vit à Versailles.
Oui, il vit à Versailles. Enfin, pas dans la Galerie des Glaces.
Ah bon, je
croyais. Non, ça, il s'était aménagé un petit coin, mais finalement, on l'a déplacé.
À l'idée de vivre avec le peuple, je trouve ça absolument...
Non, arrêtez maintenant.
Marc, je plaisante, bien sûr.
Marc, mais on va encore se faire gronder. Marc vous pose cette question. Nous avons planté en 2009 des poiriers et des pommiers palissés. Ces quelques dernières années, ils n'ont pas été taillés, ont poussé de façon un peu anarchique. Que faut-il faire? Tailler pour les remettre dans l'ordre ou juste un peu?
Vous savez, il ne faut pas confondre, par exemple, les cheveux et les arbres fruitiers, vous allez comprendre. Vous n'allez pas chez le coiffeur pendant quelques semaines, ce n'est pas très grave finalement. Vous avez peut-être les cheveux dans tous les sens, mais un petit coup de ciseau, un petit coup de peigne, et vous retrouverez votre apparence d'avant.
Ça veut dire que ce
n'est
pas la même chose pour les arbres.
Quand une plante, elle, commence à se décoiffer, c'est autre chose. Parce que la plante est un être vivant, mais qui produit des tiges qui parfois se lignifient. Quand on se lignifie, ça veut dire qu'il y a du bois. Alors, les arbres qui ont été taillés pour être palissés. Ce sont souvent d'ailleurs des tailles extraordinaires quand on regarde la forme de toutes ces poiriers, de ces pommiers, par exemple des abricotiers que l'on pousse du côté qui poussent du côté de Nancy et qui sont palissés.
Encore
et qui sont palissés.
C'est pas Mulhouse,
le long des murs. Eh bien, cette taille obéit à des règles extrêmement strictes. Et si on laisse la plante, je dirais entre guillemets, galoper, eh bien malheureusement, on ne peut pas rattraper aussi facilement. Donc, on peut effectivement donner quelques coups de sécateur pour donner un petit semblant de structure. On peut tout essayer pour redonner à la plante l'aspect que le pépiniériste lui-même avait voulu donner au végétal, mais ce n'est pas aussi simple. Et malheureusement, jamais plus, eh bien, la palmette, par exemple, retrouvera l'aspect qu'elle devrait avoir.
Auguste n'arrive pas à se débarrasser des rejets de mimosa sur une pelouse. Comment en venir à bout une bonne fois pour toutes?
Alors, déjà, le mimosa est une plante magnifique. J'aime beaucoup le mimosa pour une raison simple. C'est que, et nous en reparlerons demain. Parce que hier, Alain Bougrain-Dubourg parlait des plantes, des animaux.
La semaine dernière.
Oui, la semaine dernière, pardonnez-moi. Il parlait des animaux invasifs. Et ça m'a donné pour demain l'idée de parler des plantes dites invasives. Le mimosa fait partie des végétaux considérés comme invasifs. Imaginez la Côte d'Azur sans mimosa. Que serait Bormes les mimosas, sans mimosas.
Bormes.
Mais il est vrai que cette plante a des... Oui, Bormes, oui. Ça fera un peu sec. Où passes-tu tes vacances? À Bormes. Bah, avoue que ça serait pas aussi joli. Eh bien, le mimosa a des facultés incroyables. Quand il a gelé, par exemple, eh bien, les racines continuent sous terre de vivre. Et il va s'en extraire une quantité de rejets absolument incroyables. Alors, pour répondre à la question, la seule manière d'éliminer durablement les rejets de mimosa, c'est de couper et encore de couper. Il y a que ça. Je ne connais pas d'autres méthodes. On oublie l'emploi des produits dits phytosanitaires. Là aussi, il faudrait qu'on arrête de même d'employer le terme phytosanitaire. Autrefois, on parlait des pesticides. En employant ce terme pesticide, c'est joli, mais ça rime avec homicide. Alors on a préféré appeler ça phytosanitaire. Et maintenant, pour faire encore mieux, parce qu'on s'habitue à ce terme phytosanitaire, on emploie le terme de phytopharmaceutique. C'est quand vous achetez un produit phytopharmaceutique, vous êtes même tenté d'en boire le matin. Donc maintenant, on ne parlera plus ici, à ce micro, que de pesticides.
Très bien, on a compris la leçon. Vous avez un magnifique livre entre les mains.
Oui, alors déjà, c'est un premier livre publié par les éditions A demi-mot. Le premier livre est signé Véronique Gauchy et Izumi Matei Casalis.
Hein.
Non, mais j'aime beaucoup. Déjà, les textes sont magnifiques. Les dessins le sont vraiment. C'est tout simplement un ouvrage, un bestiaire animal qui rappelle qu'il y a des plantes qui ont des noms d'animaux comme oreille d'ours, de souris, fougère, aigle, gueule de loup, dent de lion. C'est le titre de l'ouvrage. Une dent de lion dans mon jardin, c'est l'autre nom du pissenlit. Je pense que vous l'ignoriez complètement.
Oui.
C'est donc un très bel ouvrage. C'est un très beau cadeau à se faire pour Noël.
Une salade de dents de lion, ça vous irait?
Ah, j'aime beaucoup. Blanchie, bien sûr.
À l'ail des ours.